Dès lors, ça n'est pas du tout la jouissance qui va être le lieu le plus caractéristique de l'éros. Parce que la jouissance est comme une sorte de... le moment où le rapport a l'air de s'accomplir et se défait en réalité. Non, il y a deux lieux qui vont être majeurs, un lieu en amont et un lieu en aval, les deux d'ailleurs étant liés, la caresse et la fécondité, l'engendrement. Voilà ce que dit Lévinas dans le célèbre passage de Totalité et Infini, texte de 1961, sur la caresse. Je vous ai repris une phrase, enfin une expression, et là vous allez voir vraiment le style de Lévinas. Je suis désolé, j'ai dû faire des coupes, mais il faut lire le texte. Lévinas est sans doute vous savez qu'il avait une vocation poétique à l'origine, hein, il voulait être un littérateur. Il a eu cette phrase disant « si je suis écrivain, je serai comme Proust » ou « je ne serai pas ». Et vous voyez, il a fait mieux que d'être comme Proust puisqu'il a été, vous connaissez cette phrase des Hassidim, je vous l'avais peut-être déjà citée, la phrase de Rabbi Zuzia de Hanipol qui disait « quand je mourrai au moment de mon jugement, Dieu ne me demandera pas pourquoi est-ce que tu n'as pas été Moïse, mais il me demandera pourquoi est-ce que tu n'as pas été Zuzia. » Le reproche, le seul reproche que peut nous faire Dieu, c'est de ne pas avoir été nous-mêmes. Alors Lévinas, il a été lui-même, après avoir voulu être comme Proust. Et il a cette écriture philosophique sans précédent. Une écriture qui a une poésie très forte, mais qui en plus a une poésie qui est toujours prise dans une, c'est pas une simple intertextualité, rapport à d'autres auteurs, mais surtout rapport à d'autres langues. Il écrit le français en songeant à l'hébreu, en songeant au lituanien qu'il parlait, à l'allemand, mais bien sûr d'abord à l'hébreu. Et donc, vous voyez, c'est une poésie vraiment qui est entre les langues aussi. Et il a un style vraiment très singulier. Alors, voilà, la caresse, comme si elle se nourrissait de sa propre faim. Et se nourrir de sa faim. F-A-I-M. Parce qu'il y va du désir toujours. Parce que c'est le désir, c'est pas la jouissance, c'est le désir où l'autre... Je tends vers lui toujours davantage, mais il reste autre, il continue à être l'autre. Donc c'est dans le désir. Donc la caresse se nourrit dans une faim et pas dans une satisfaction, parce que la satisfaction serait retour sur soi. La caresse consiste à ne se saisir de rien. C'est simple, c'est pas une saisie. À solliciter, c'est magnifique, hein, solliciter. Solliciter, c'est vraiment attendre que l'autre déploie ce qu'il est lui-même. Quand je sollicite quelqu'un, c'est pas au sens du solliciteur, mais de la sollicitude aussi. On ne sait pas très bien. Hein. L'ambiguïté de l'héros, c'est que cette sollicitation est celle du solliciteur, mais aussi de la sollicitude. À solliciter ce qui s'échappe sans cesse de sa forme vers un avenir, encore cette dimension de l'avenir, jamais assez à venir. À solliciter ce qui se dérobe comme s'il n'était pas encore. C'est intéressant, hein, la personne qui connaît la caresse, elle s'offre, elle est là, comme ce qui n'est pas encore. Elle cherche, c'est très beau cette phrase, la caresse cherche, elle fouille. Dans sa satisfaction, vous voyez, dans la satisfaction même, le désir qui l'anime renaît, alimenté en quelque façon par ce qui n'est pas encore, nous ramenant à la virginité à jamais inviolée du féminin. La femme est toujours vierge. Elle est à jamais inviolée parce que dans le rapport même, dans la relation érotique, à travers la caresse, elle se dérobe encore dans sa féminité. Nous n'avons pas accès à sa féminité. Ou plutôt, cet accès n'est jamais une saisie, n'est jamais une compréhension. De sorte que plus j'étreins, plus je vois qu'elle m'échappe. C'est un avenir. C'est sans fin au sens où il y aura un avenir. Effectivement, de soi, la caresse et le désir est sans fin, dans une sorte d'accroissement, sans doute, d'intensification, bien sûr. Donc, ce n'est pas une stagnation. On voit bien à chaque fois, hein, le désir qui l'anime renaît et ouvre tout le temps un avenir. Et là, non pas que la caresse chercherait à dominer une liberté hostile, à en faire son objet ou à lui arracher un consentement, la caresse cherche par-delà, écoutez cette phrase, c'est extraordinaire, la caresse cherche par-delà le consentement ou la résistance d'une liberté. Ce n'est pas un jeu de pouvoir. J'attends pas que l'autre consente, parce qu'au moment même où il consent, il se dérobe dans son offrande même. Dans son absence de résistance, quelque chose se dérobe. Ce n'est pas parce que ça résiste, vous voyez, parce que la personne résiste, mais il y a quelque chose auquel... Ouais, plus elle s'offre, plus le mystère est manifesté, si vous voulez. Et la caresse est lieu de manie, avec la main, hein, festation de l'altérité, que je cherche à chaque fois, peut-être j'essaye de la saisir, mais à chaque fois je vois que ça se dérobe, et donc... La caresse est une, alors c'est ça l'expression d'Erwin Strauss, une approche infinie. Ouais, une approche sans fin, approche infinie. C'est un rapport à l'infini, la caresse. Dans une finitude même. Et écoutez la suite. Et dans ce sens, la volupté, alors la volupté, c'est plus exactement la jouissance, vous voyez. La vraie volupté érotique commence déjà dans le désir érotique et reste à tout instant désir. Ce n'est pas du côté de la jouissance, c'est du côté du désir qu'il faut penser la vraie volupté érotique. La volupté ne vient pas combler ce désir, elle est ce désir même. C'est pas la jouissance, c'est la jouissance qui viendrait combler ce désir. Mais non, la volupté, elle est ce désir même. C'est pourquoi la volupté n'est pas seulement impatiente, elle veut obtenir un résultat, elle est l'impatience même. Elle respire l'impatience et en étouffe, surprise par sa fin, car elle va sans aller à une fin. C'est exactement ce que vous disiez, Jean. Et surprise par sa fin, car elle va sans aller à une fin. Parce que qu'est-ce qui se passe? La fin, c'est quoi? C'est la jouissance, spécialement la jouissance masculine. Eh bien, on est surpris par cette fin. Et cette fin est comme une sorte d'écart entre ce vers quoi, cet infini que ne cesse, vous voyez, d'approcher la caresse, qui essaye de tenir, la caresse essaye de tenir dans l'ambiguïté même de l'éros, c'est-à-dire à ce point de tangence entre jouissance et altérité. Mais la jouissance ramène à soi, l'altérité c'est vraiment sans retour, et là elle essaye de tenir dans ce lieu même de l'ambiguïté. Et donc, elle est l'impatience même, parce qu'elle veut toujours plus de l'autre, mais, vous voyez, et en même temps, elle doit le laisser être l'autre. Et à cause de cela, vous voyez, tout d'un coup, quand elle arrive à cette fin, qui est la jouissance, elle est surprise. Il y a une sorte de dénivellation, si vous voulez, entre la volupté et la jouissance, ici, chez Lévinas. Et donc, l'orgasme, tel qu'il se joue, en tout cas, ici-bas, et je dirais après le péché originel, pour en parler un vocabulaire de théologie catholique, mais d'ailleurs, Thomas d'Aquin dit des choses très intéressantes là-dessus, est un lieu, finalement, qui n'achève rien, qui est l'inachevé même. On avait parlé hier, du livre d'entretien de Béatrice Berlovitz avec Vladimir Yankelevitch, dont l'intitulé est... C'est un livre où on parle beaucoup de musique, parce que c'est tiré d'un extrait des cahiers de Malte, de Lorit Brig, de Rilke, de Rainer Maria Rilke, un des plus beaux livres de la littérature, Et à un moment, il parle de la musique. Et il dit justement que la musique nous entraîne. C'est intéressant parce qu'il y a un lien entre musique et érotique, d'une certaine façon. La musique ne cesse de nous faire une promesse, la promesse d'une révélation, mais que finalement, elle ne tient pas. Elle ne cesse d'être une signifiance de quelque chose qui va se révéler, qui est extraordinaire, qui nous arrache, je dirais, aux pesanteurs de ce monde, mais tout d'un coup, elle s'arrête et elle nous laisse, elle nous laisse quelque part dans l'inachevé. Ça, le titre de l'entretien avec Yankelevitch, « Quelque part dans l'inachevé ». Et c'est la même chose, vous voyez, avec la volupté. Tout d'un coup, quand la jouissance advient, elle nous laisse comme quelque part dans l'inachevé. Quelque chose n'a pas... Vous retrouvez cette phrase, quelque chose d'analogue chez Hugo von Hofmannsthal. Hugo von Hofmannsthal, grand poète allemand, à cette phrase bouleversante, très importante, Flora, vous la connaissez sans doute, c'est aussi bien pour Katharina, la rencontre promet plus que l'étreinte ne peut tenir. La rencontre promet plus que l'étreinte ne peut tenir. Parce que si, mais ici, vous voyez, il y a un problème du tenir. Parce que si je prétends tenir l'autre, ça n'est plus l'autre. C'est un objet dans ma main. La caresse ne tient pas. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de main tenant de la caresse. La caresse est toujours en mouvement vers l'avenir pour toujours caresser plus intensément. Et puis voilà que tout d'un coup, il y a une sorte de rupture à travers l'orgasme, vous voyez, mais qui rompt ce mouvement-là. L'avenir, c'est là où il n'y a plus de main tenant. Donc, la caresse est justement cette œuvre de la main, cette tâche de la main qui ne tient pas, mais qui s'ouvre à l'autre et qui, par là, s'ouvre à l'avenir radical, qui ne cesse d'approcher ce qui lui échappe. Oui, c'est ça le lieu de l'éros pour Lévinas. Alors, quelqu'un voulait intervenir. C'était qui ? Claire ?
Pourquoi vous dites que Lévinas, il a pas une conception idéaliste du désir ?
C'est pas idéaliste parce que justement, c'est inachevé. C'est inachevé. Ça fait place, si vous voulez, à l'animal post-coitum triste aussi, vous voyez, c'est-à-dire... le fait que vous entrez dans l'éros, dans la rencontre, vous approchez l'étreinte comme l'ouverture vers une sorte de symphonie charnelle, inouïe, et à la fin, vous avez l'impression qu'on vous a refilé un steak. Enfin, bon. C'est une image, bon. Hein. Mais il y a quelque chose qui est une sorte d'écart entre la rencontre et l'étreinte. Et même, il va aller plus loin, puisque dans certains textes même, il parle de quelque chose qui est comme une sorte de profanation incessante dans la caresse. Je n'ai pas mis ce passage, je crois. Mais il parle de l'étreinte comme quelque chose qui est... Parce que, vous voyez, la femme ne cesse d'être inviolée. Elle ne cesse de se dérober. Et moi, je ne cesse d'essayer aussi peut-être de la saisir. Parce que la caresse, ce n'est pas le fait que j'ai renoncé moi-même à saisir. C'est que j'essaye, je n'y arrive pas. Mais le fait que la femme se dérobe toujours fait que je peux toujours essayer davantage de la saisir jusqu'au moment où je peux aussi basculer. Il y a toujours une profanation tendancielle, c'est-à-dire je veux jouir de l'autre, mais je veux qu'il reste l'autre. Donc je ne cesse de profaner le sanctuaire de l'altérité d'une certaine façon. Mais attention, ici, cette profanation n'est pas conçue comme une faute, hein, ce n'est pas un péché, hein, c'est expliqué, c'est une phénoménologie ici, hein, ce n'est pas moral, hein, ce n'est pas profanation pris au sens moral. Et puis, en même temps, c'est précisément parce que la femme est inviolable dans sa féminité que je peux... vouloir la violer. Parce que c'est insupportable. à un moment, et j'en parlerai de ce renversement, hein, à un moment, le fait que l'autre reste l'autre, maintenir cette tension, maintenir cette séparation, maintenir cet inachèvement, maintenir cette responsabilité pour autrui, pour l'avenir, ça peut devenir, c'est insupportable. Et donc, à un moment, je peux dire, je veux la réduire à un objet. C'est pour ça que ce n'est pas une idéalisation. La phénoménologie qu'il met en avant ici montre bien aussi la bascule possible à l'intérieur de l'ambiguïté de l'éros. Dans l'ambiguïté de l'éros, en gros, je suis pris dans une situation ambiguë qui est naturellement ambiguë, donc ce n'est pas une faute, attention, hein. Mais on voit bien que je peux basculer soit du côté de la jouissance, soit du côté de l'éthique. Et on va voir, hein, comment l'éros de lui-même nous pousse vers l'éthique. Vous allez voir, parce que ce n'est pas comme si l'éros était neutre moralement, hein, ce n'est pas du tout ça. Mais malgré tout, on voit aussi comment ici se joue quelque chose qui peut aller du côté de la profanation sans reste.